en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
En habit vert, bonjour. C'est aujourd'hui à Robert de Flers de revêtir le fameux habit vert. Ses discours resteront parmi les plus célèbres que l'Académie ait entendus. On y allait comme on va à un spectacle qui ne doit pas apporter de déception. L'esprit y jaillissait et y pétillait dans un enchantement ininterrompu. Robert de Flers lisait et disait à merveille. C'est par ces mots que Louis Barthou prononçait l'éloge funèbre de Robert de Flers le 4 août 1927. L'Académie française avait perdu, 5 jours plus tôt, le fameux auteur de « L'habit vert », la pièce la plus fameuse qui ait été écrite sur la Compagnie des 40, mais non pas la seule puisque Flers avait inscrit ses pas dans ceux de Saint-Évremond, fameux pamphlétaire du grand siècle. Il était de l'école d'Anatole France auquel, poursuit Barthou, il avait en 1896 dédié son premier roman et sa philosophie devait toujours s'inspirer de ce passage du Jardin d'Épicure qu'il me souvient de lui avoir entendu dire avec la double volupté d'une intelligence raffinée et d'une diction irréprochable. L'ironie et la pitié sont deux bonnes conseillères. L'une, en souriant, nous rend la vie aimable, l'autre, qui pleure, nous la rend sacrée. L'ironie que j'invoque n'est point cruelle, elle ne raille ni l'amour ni la beauté. Elle est douce et bienveillante. Son rire calme la colère et c'est elle qui nous enseigne à nous moquer des méchants. On chercherait en vain la bile déversée par quelque esprit chagrin ou bien par quelque jaloux. Robert de Flers était de ces natures heureuses qui ne sont entourées que d'amis. En lui succédant au 5e fauteuil, le 23 mai 1929, Louis Madelin lui rendait l'hommage que commande la tradition Quai de Conti, mais cet hommage se doublait aussi d'une protestation d'amitié. Pour le nouvel académicien, Robert de Flers, je cite, était une des fleurs chatoyantes du magnifique parterre français. Et il s'est épanoui dans son œuvre. Cette fleur est d'ailleurs venue éclore sur un arbre très ancien. Et l'historien de la Révolution et de l'Empire de rappeler l'ancienneté de la famille de Flers, originaire de Normandie. Du côté maternel, l'ascendance n'était pas moins brillante puisque les Rosières ont donné 3 académiciens à l'Institut de France, parmi lesquels le sénateur Eugène de Rosières, élu de la Corrèze et spécialiste d'archivistique. Béni des muses, acclamé par le public, Robert de Flers a pu donner l'impression d'un dilettante, ce qu'il n'était pas. Ce natif de Pont-l'Évêque, ville dont son père était alors le sous-préfet, avait coutume de répondre à ceux qui lui demandaient le secret de l'apparente facilité qu'il avait à connaître le succès « Il faut beaucoup travailler pour que la veine s'occupe de vous ». Sans doute peut-on considérer qu'il est arrivé au bon moment, venant par ses comédies de mœurs dissiper dans les années 1890 le voile de tristesse qui s'est abattu sur la France en 1870. Dans une république française où la prospérité semblait s'installer durablement, alors que les alliances diplomatiques avec la Grande-Bretagne et la Russie, une aimable anarchie suivant les propos de Louis Madelin, libéraient peu à peu les esprits. La France, un peu lasse de la grande histoire, allait gaiement aux petites histoires. La tragédie était morte et le drame historique se mourait. On voulait des comédies de mœurs. Nul n'était plus préparé à remplir ce rôle qu'une société redevenue fine exigeait du théâtre. Flers était gai, spirituel et porté à la fantaisie. Il était extraordinairement optimiste et la société qu'il livre à nos rires, il ne la hait point ni même ne la méprise. Nous retrouvons Robert de Flers, académicien et éternel optimiste, auteur béni des muses et père d'une pièce mondialement connue et adaptée au cinéma en 1937, « L'habit vert ». De cette pièce, Robert de Flers n'assumait d'ailleurs que la moitié de la paternité. Il l'avait en effet coécrite avec son compère en littérature, Gaston de Caillavé. Grâce à Elvire Popesco et à Jules Berry, le cinéma a rendu éternelle cette histoire de liaison entre une comtesse dont l'amant se marie avec une autre et un duc qui ne parvient pas à trouver de candidat pour l'Académie française. Cette satire de la France d'avant 1914 aurait pu valoir à Flers d'être blackboulé et de ne jamais entrer à l'Académie. Il n'en fut rien. René Doumic, à qui revint d'accueillir Robert de Flers sous la coupole ce 16 juin 1921, fait allusion avec malice à cette comédie sur les académistes, ainsi qu'il l'appelle, en référence à celle de Saint-Évremond. Je cite Doumic. « L'Académie n'a tenu rigueur à aucun de ceux qui lui ont témoigné ce genre de déférence. Le mérite de votre satire, monsieur, c'est qu'elle est fine, amusante et nullement amère. Vous ne songez, vous, à rien détruire. Vous ne démolissez rien, vous ne cassez rien. Le monde, tel qu'il est, vous paraît très bon à conserver. Il faut qu'il y ait une république pour acclamer les rois, des bourgeois ridicules pour en rire, des péchés mignons pour en profiter et une académie pour en être. De son côté, le jour de sa réception à l'académie, Robert de Flers devait donner quelques détails sur la manière dont il s'y était pris pour préparer l'écriture puis la mise en scène de la fameuse pièce. En 1913, jeune auteur, accompagné d'un décorateur de théâtre, il s'était introduit à l'académie en rasant les murs après avoir songé à se déguiser en touriste anglais de passage à Paris. Puis, après avoir pris quelques mesures, les deux larrons avaient déguerpi sans demander leur reste, honteux de créer sous le couvert de ce lieu auguste une pièce dans laquelle Metella verse à Socrate une coupe de champagne. « Lorsque vint l'heure de mettre la pièce en scène, explique Robert de Flers, il me fut permis d'assister aux disputes passionnées qui surgirent entre les figurants dont chacun nourrissait le secret espoir de revêtir l'habit vert. Avec une diligence merveilleuse, ils demandèrent des recommandations, ils cherchèrent des appuis, et, à ne vous rien cacher, ils se mirent à faire des visites. Il fallut, pour apaiser ceux que l'on fut contraint d'évincer, leur dire que ce serait pour une prochaine reprise, et leur distribuer des décorations considérables. Ils se turent, mais je vous le jure, messieurs, ils n'étaient point consolés. D'ailleurs, plusieurs membres de votre compagnie daignèrent assister au spectacle et s'y divertir, ou, ce qui est plus obligeant encore, paraître s'y divertir. Je me souviens même que l'un d'entre vous, que j'avais à peine l'honneur de connaître et que je rencontrais pendant un entr'acte, eut la bonté de me dire « Je suis heureux de vous faire mon compliment. Vos deux premiers actes, monsieur, m'ont fort amusé. » Comme le troisième acte venait de se terminer, je pus ainsi avoir l'opinion tout entière de mon éminent interlocuteur formulée selon le rite le plus pur de la malice académique. Et Robert de Flers de conclure avec l'esprit qu'on lui connaît, « Je me demande aujourd'hui si, en ayant quelques années plus tard, l'audace de venir rôder autour de ce palais dans une pensée évidemment assez différente de mon premier dessein, je n'ai pas obéi malgré moi à cette loi mystérieuse qui veut que les criminels soient irrésistiblement attirés vers le théâtre de leur forfait. » Mais il serait impossible de brosser le portrait de Robert de Flers sans parler de Gaston de Caillavé. D'une certaine manière, c'est durant l'adolescence que prend forme le duo Flers et Caillavé, car c'est durant leurs jeunes années qu'ils font connaissance l'un de l'autre. Devenu écotier au Figaro, Caillavé y parraine son ami Flers. La légende veut qu'un jour de désœuvrement, le jeune Gaston ait lancé comme un défi à son ami Robert, comme lui passionné de théâtre et d'opérette, « Ne serait-il pas charmant que nous nous missions à Meillac à l'Évisée ensemble ?» Ainsi prit forme une collaboration de 20 ans, aussi fructueuse que celle qui, 40 ans plus tôt, avait uni Meillac et Halévy, ou que celle qui, 40 ans plus tard, devait réunir Barillet et Grédy. C'est une fois encore René Doumic de l'Académie française qui évoque le mieux le fonctionnement de ce tandem Flers et Caillavé. Je cite Doumic. « Aucun engagement ne vous liait, aucun traité, rien que la joie d'avoir de l'esprit ensemble et la certitude de n'avoir tout votre esprit qu'ensemble. Vous travailliez tout haut des deux côtés d'une table, tenant la plume à tour de rôle, tantôt à Paris et tantôt en Dordogne. Parfois, il vous arrivait de vous disputer à propos d'une scène. Chacun tenait à son avis et jurait de n'en rien démordre. Quelques jours avant sa mort, Gaston de Caillavé vous avait confié « Vous avez été la joie constante de ma vie. » Aussi bien, Meillac à l'Évisé, c'est regarder un petit coin de la vie du coin de l'œil et d'un regard narquois. Rire de ce qu'on y découvre et qui ne vaut pas la peine qu'on en pleure, et puis en faire de menus récits agrémentés de mille folies. Beaucoup de fantaisie avec pas mal d'observations, de la gaieté, de la drôlerie, de la cocasserie, un peu de sagesse, d'émotion, de clairvoyance et d'indulgence. Le refus d'être dupe et un reste d'incorrigible naïveté. Tout cela donne une petite chose légère, souriante et un peu perverse, railleuse et tendre qui ne se fait qu'à Paris. Le 30 juillet 1927, Robert de Flers rejoignait dans la mort son complice de 20 ans. En mêlant ses platanes des boulevards parisiens aux châtaigniers périgourdins de son ami Caillavé, Robert de Flers a fait un petit bois où la lumière du jour est toujours bienfaisante. En relisant à son ombre des œuvres telles que « Le Sire de Vergy », « Les Sentiers de la Vertu », « Miquette et sa mère » ou bien encore « Primrose », au bord d'une petite rivière qui ne chercha jamais à arriver, les deux amis connurent des bonheurs à côté desquels les autres ne sont que vanités.